Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, fidèle au rendez-vous. Et là, je vois Philippe Noni impatient. Bonjour
ah oui,
à tous les
deux. Je
bonjour, de...
bonjour Philippe.
Bonjour de Philippe.
Bonjour Diego Arrabal.
Parce que les auditeurs, bien sûr, ne le savent pas, mais on prépare avant l'émission.
Oui.
Et là, vous nous avez déjà fait deux fois la chronique sur le livre que vous allez chroniquer aujourd'hui.
Oui, ah, aujourd'hui.
On va pouvoir vérifier qu'il lit la même chose.
Ouais, ben oui, exactement. Une émission consacrée à deux romans qui m'ont réellement touché, puisque vous savez qu'à l'approche de l'été, hein, j'ai l'habitude depuis maintenant 13 ans de présenter des romans qui m'ont touché, qui vont être sur des thèmes différents, et que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette émission littéraire modeste mais géniale, comme le disait si bien celui qui avait fait l'émission « Là-bas, si j'y suis » et qui s'appelait Daniel Mermet sur France Inter. Tout d'abord, « La vie entière de Timothée de Fombelle » publié chez Gallimard, et « Les confidences de Marie Nignier » publié chez Folio en livre de poche. Commençons par le premier et sa quatrième de couverture réellement alléchante. Hier, j'ai eu 19 ans, mais il y a sous mes mains cette nuit une femme qui se met à exister dans ma chambre bavarde et vieille. Elle descend le clavier comme un escalier d'honneur. Une femme très âgée qui parle et me survivra. C'est moi. Paris sous l'occupation. Claire attend son chef de réseau dont le retard laisse présager le pire. Elle devrait quitter l'appartement, c'est la règle. Mais elle reste et tape à la machine, inventant sa vie avec cet homme qu'elle aime en secret. Les baisers sur les toits, l'amour fou, les enfants, la mère, la vieillesse heureuse, et tous les miracles ordinaires d'un temps de paix. Dans l'urgence de cette nuit où l'existence ne tient qu'à un fil, Claire se sauve par les mots et crée sur le papier l'espace d'une vie entière. Habitué des récits au long cours, Toby Lopnes, Van Gogh, Alma, Timothée de Fombelle célèbre ici en quelques pages virtuoses la toute-puissance de l'écriture et de l'imaginaire. Voilà un roman où les mots vous transportent loin, je vais lire quelques extraits. Alors, posez le téléphone portable loin de vous et lisez cette très belle histoire. On commence en page 13. L'odeur du vin. Devant moi, ses mains sur la nappe, les boutons défaits de ses manches. Je le regarde par en dessous sans lever la tête. Il écoute la conversation des voisins. Il sent le savon blanc. On est bien. Le patron met un gilet pour servir. Le temps du dîner, les murmures, la fatigue de la mer et du vent, peu de mots. Regarde, c'est bien présenté ces coquillages. La patronne qui descend soudain à l'heure du dessert, l'enfant dans les bras, mon chéri, parce qu'elle l'a entendu pleurer là-haut dans la chambre. Toute la salle se retourne vers nous. Je prends le petit sur mes genoux. Je parle dans son oreille brûlante. Il a les yeux entourés de larmes. Il sourit. Les clients lui tendent des biscuits de leur glace. Mets-les dans ta poche. En sueur, contre mon cou, il regarde autour de nous comme un animal. On l'oublie. Il dort. Je le porte dans l'escalier. La serviette de table enfermée dans son poing serré. Impossible de la retirer de sa main. Ce n'est rien. Vous la rendrez demain si vous voulez. Enfin s'allonger, parler très bas, se retrouver. Le vent dans la fenêtre. La nuit salée et pleine. Tout cela se passera après, parce qu'un jour, un matin, ce sera fini. Les mains vides. La fin de la guerre. La peur évanouie. Il ne reste qu'à être en vie, à boire de l'eau au robinet, à pousser du pied les pommes de pin dans l'herbe. Plus tard encore, je suis vieille, j'imagine. Je raconterai tout aux enfants. Ce sont eux qui réclament. La plus petite s'est endormie. La route est longue, c'est la nuit. L'auto est remplie d'enfants. Combien sont-ils sur la banquette arrière? Ils disent « La robe, raconte-nous la robe !» Ils la connaissent déjà par cœur. Je parle en conduisant lentement. Les phares éclairent les arbres des deux côtés de la route. Je cousais des messages dans les ourlets d'une robe d'été pour les cacher. C'était la guerre, vous savez. Je marchais dans les rues de Paris avec ses secrets. Forteresse légère. Il y a du monde sur les trottoirs, je n'ai pas peur. On me regarde trop pour me voir. La chaleur, les voitures allemandes qui ralentissent, les regards, les rires, les cris. Mademoiselle ! Elle est vivante cachée dans le revers de ma robe. Je mets ensemble le passé et l'avenir. Je ne fais pas le tri. Je gagne du temps sur la nuit. Peut-être que je reconnaîtrai soudain son pas dans la cour, l'entendre enfin venir, bonsoir, son pas posé sur ma terreur. Il monte, il ne me regarde pas. Pourquoi m'avez-vous attendu ? Je souris, je ne dis rien. Je rassemble les feuilles répandues sur la table. Il est là, le battement de la fièvre sur mes tempes, les cheveux encore coulés de cette buée de mots. J'étais petite, réveillée en sursaut la nuit par le silence. Je m'en demandais à tâtons où j'étais, peut-être à peine endormie, tout près du soir, peut-être ailleurs, dans une maison lointaine, je ne sais plus. Je ne cherche pas vraiment. Les yeux fermés, je profite un peu d'être perdu. Un lac noir sans rive où je fais la planche. Et puis de très loin me parvenait le clapotis d'une voiture à cheval dans la rue. Ce bruit du matin que je reconnais, qui me prend la main et me ramène à la maison. Viens, c'est l'heure, on rentre. J'ai vu les dimanches de guerre. La ville heureuse quand même. Ce monde partout, la foule au jardin, les goûters dans les landaus, les ponts piétinés, les familles penchées sur la Seine. Le soleil qui fait croire à la paix. Hier, j'ai eu 19 ans, mais il y a sous mes mains cette nuit une femme qui se met à exister dans ma chambre, bavarde et vieille. Elle descend le clavier comme un escalier d'honneur. Une femme très âgée qui parle et me survivra. C'est moi. J'ai des souvenirs d'avance serrés à l'intérieur, roulés ensemble. Tout est déjà là. Le bout de la laine entre les dents, la pelote sur mon cœur, et je la jette loin devant. J'aimerais un jour aussi l'autre enfant. Je ne sais pas la couleur de ses yeux ni de ses cheveux. Une petite fille venue après, qui ressemblera à son frère, à son père, et à tous ceux d'avant, grands-parents, ancêtres. Tous ceux qui remontaient, petits de la plage, collés de sable, tremblants, les lèvres violettes sur le chemin de fer. Voilà un premier extrait d'Diego Arrabal de ce très 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 beau roman qui fait à peu près 80 pages, mais où les mots nous transportent de cette histoire de cette femme qui attend ce chef de réseau et qui, ne le voyant pas arriver, se met à écrire l'histoire qu'elle voudrait avoir après la guerre. C'est un roman extrêmement touchant. Quand je l'ai lu, j'ai pensé notamment à ces femmes ukrainiennes qui, durant la guerre, pendant la guerre, peuvent se retrouver à un moment donné à attendre donc sur le front un chef de réseau ou un homme qui va attendre une femme qui va lui donner un message. Et j'ai pensé effectivement à eux. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce second message maintenant, enfin ce second passage, pardon, maintenant, que je vais lire en page 67 avant de présenter le deuxième roman, donc Les Confidences de Marie Nimier. Premier roman toujours, La vie entière, chez Gallimard, de Timothée de Fombelle. J'avais 14 ans et demi au premier jour de la guerre. La chienne avait eu des petits cet été-là, sous la table de la cuisine. C'était arrivé à l'heure la plus chaude. Assis sur le carrelage, je respirais l'odeur de sang et de vie. J'étais un animal aussi. Je n'arrivais pas à m'éloigner. Je ne reconnaissais pas la mère haletante, si sage la veille devenue une louve. Les chiots paraissaient inachevés. Je regardais bouger cette couline sous la table. On m'avait envoyé en juin à la campagne pour ne pas m'avoir sur les bras à Paris jusque fin septembre. Je marchais très loin dans les bois et les prés. Je revenais en même temps que la nuit ou un peu après. Des nuages d'étourneaux faisaient un bruit de marée basse. Le matin, je restais dans ma chambre, la porte fermée à clé. Je me rendormais par petits traits d'un quart d'heure, réveillé par la lumière et la chaleur. Je cuisais dans mes draps mouillés. Je chantonnais. Je me levais sans m'habiller. Je tirais alors le drap derrière moi comme une traîne pour aller jeter un coup d'œil par la fente du volet. Personne ne s'occupait de moi. Je sortais à 2 heures de l'après-midi, je volais des œufs dans la cuisine, je m'évadais, le ciel était blanc, l'herbe craquait. Je marchais tout droit jusqu'à la fatigue sans jamais penser au retour. Je ne voyais de gens nulle part, même pas une silhouette dans les champs. J'aurais pu mourir, on l'aurait su le dernier jour, à l'heure du train. On m'aurait cherché dans la maison et sur les chemins. On aurait sondé les étangs. Mais j'étais vivante comme mille. Je sentais remuer une ruche au milieu de moi. Une réserve profonde. Assez pour la vie entière. Il viendra. Il n'aura pas de colère. Il faut partir. Venez. Je l'écris pour croire que c'est arrivé. Il viendra. Il me donnera ses gants. Mettez cela. Il fait froid. Je t'ai attendu, tu vois. Je veux être vieille et ralentir devant les miroirs. Je veux une vie étendue des deux côtés de la guerre. La petite maison aura peut-être brûlé un été, longtemps après, dehors avec les enfants devant les flammes, les larmes salées dans la couverture grise. Nous sommes tous là, regarde, les bras et les doigts qui se tiennent ensemble. Tout a brûlé, Mais regarde-nous, vivant, le premier rire. Il faudra recommencer. Je me suis peut-être trompé depuis le premier jour. J'aurais dû rester sur le bord. Ne nage pas trop loin. Ces mots qui gardent en vie. Ne te penche pas. Tout ce que l'on dit quand il est encore temps. J'aurais dû acheter du pain, du beurre, m'asseoir dans la cuisine. Une tartine de beurre, du café au marché noir. J'aurais eu les coudes sur la table, assise au bord de la guerre. Les mailles rouges des gobelets accrochés au mur. Du gaz bleu sous la casserole. Rien d'autre pendant des mois. Ce qu'il reste des batailles après l'odeur du pain grillé. À quoi sert de quitter la cuisine? Attendre là quelques saisons, s'asseoir, ne plus se battre, ne plus se battre. Vapeur de guerre à deux rues, la porte fermée. Volupté de sucre et de beurre frais ici. Voilà ce premier roman, je voulais lire des extraits.
Superbe.
Parce que l'écriture est littéralement superbe. Et quand je l'ai lu, il m'arrivait de lire les mots à voix haute pour les apprécier d'autant plus. Il écrit dans une langue absolument formidable. C'est un livre d'une condensée, d'une intensité incroyable. Et puis, cette histoire que je trouve magique de cette femme sous l'occupation qui attend son chef de réseau, dont le retard laisse présager le pire. Elle devrait quitter l'appartement et pourtant...
Elle reste.
Elle reste parce qu'elle se sent étonnamment vivante, parce que quelque part, elle aime cet homme et elle s'invente une vie. Voilà, durant cette attente et... C'est un roman absolument magnifique. Quand je l'ai vu, je l'ai pris d'emblée. Je voulais le conseiller parce que c'est vraiment un roman d'été, je trouve, à lire tranquillement, assis sous un arbre. On en parlait il y a quelques semaines. À déguster, vous preniez quoi? De la menthe, vous? C'est ça,
oui,
du
oui.
Rabal? Vous restez toujours
de
sur la menthe?
De la menthe avec un peu de sucre.
Bon, je ne sais pas ce que Philippe Subercas prendra. Je l'imagine
un
plus
peu,
à la bière.
Un peu de rhum.
Un peu de rhum, oui, je l'imagine bien.
Ouais.
À Philippe Subercas. Bon, voilà pour ce premier livre, Timothée de Fombelle, La vie entière. Donc, un roman publié chez Gallimard. On va parler du deuxième qui est tout aussi fabuleux. C'est un roman de Marie Nimier, Les Confidences. Folio, avec une idée, vous allez voir, d'une originalité extraordinaire. Je lis la quatrième de couve. Pour moi, une confidence, c'est une histoire que l'on garde pour soi parce qu'elle concerne tout le monde. Si elle ne concernait pas tout le monde, on n'aurait pas besoin de la garder pour soi. Dans un appartement meublé de deux chaises, une table et un immense philodendron, Marie Nimier recueille les yeux bandés des confidences. Un à un, les volontaires se livrent anonymement à de troublants aveux, souvent pour la première fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs, rêves et fantasmes se dévoilent. Jusqu'à ce qu'un jour Marie perde pied. Celle que son père surnommait enfant la reine du silence, prend finalement la parole. La dernière confidence sera la sienne. C'est un livre absolument fabuleux, je vais vous lire. Vous allez voir l'extrait, page 13, elle a une idée géniale, donc de se dire un jour, tiens, je vais louer un appartement dans un lieu qui n'est pas le mien, pour pas qu'on me connaisse. Et elle passe une annonce pour que les gens, effectivement, viennent la voir et les gens répondent à l'annonce. C'est original comme idée.
Très original, oui.
Je vais vous lire en page 13, donc effectivement, cet extrait que j'ai trouvé fabuleux quand je l'ai lu. Voilà, il est jubilatoire, ce livre. Pendant des mois, quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu que je travaillais sur mon machin autour des confidences. Un jour, à force de tourner en rond, le machin a pris corps. Je suis monté dans un train avec une valise et tout s'est accéléré. Dès le lendemain de mon arrivée, armé d'un rouleau de scotch et d'un plan détaillé de la ville, j'ai posé des affichettes dans quelques endroits clés. Le lycée et le centre d'apprentissage, le hall d'accueil du supermarché, la maison des associations, la médiathèque, ainsi que chez les commerçants des quartiers nord, près du canal, plus réceptifs d'après la bibliothécaire que ceux de la rue piétonne. On pouvait y lire, en lettres bleues, sur fond jaune, le texte suivant. Appel à confidence. Une phrase entendue dans l'enfance, un acte que l'on regrette, un bonheur volé, une pensée qui vous tourmente ou vous fait sourire. Un rien du tout, mais qui revient sans que vous sachiez pourquoi. Un désir, un remords. Une peur qui retient votre esprit en otage. Du 28 septembre au 16 novembre, une romancière recueille confidences, confessions et autres secrets. La rencontre se déroulera de façon parfaitement anonyme. Les témoignages serviront de base à l'élaboration de textes de fiction qui pourront être mis en scène et publiés. Les noms des personnes évoquées seront changés, les lieux rendus méconnaissables. Pour partager une émotion, déposer un souvenir encombrant ou simplement parce que la démarche vous intrigue, n'hésitez pas à vous inscrire. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sont invités à envoyer leur récit sur le site des confidences à partir du 26 septembre, voire lien ci-dessous. En bas de la feuille, rebiquez des languettes prédécoupées où figurez l'adresse du site dans la pure tradition des petites annonces à franges que l'on met dans l'espace public pour retrouver son chat, son chien ou signaler une disparition.
Ou sa belle-mère.
Ou sa belle-mère, voilà, ça peut arriver, ouais. Et voilà, donc c'est ce premier extrait que je voulais vous lire. Donc elle a décidé de partir et ça donne un roman d'une saveur exceptionnel. Quand j'ai lu la quatrième de couve, je me suis dit, ce roman est pour moi. Alors, vous savez, Diego Arabal...
Il a bien vécu, ce roman. Hein, là, je le vois entre vos mains.
Ouais. Alors, en fait, il a bien vécu, vous savez pourquoi? Parce que je l'ai emmené quand j'étais au Vietnam et j'ai la bouteille d'eau qui a fui.
D'accord.
Donc, il a pris l'eau. Donc, c'est un roman, en fait, voilà, qui a une vie, effectivement. Une deuxième vie, mais bon, voilà.
Ah, je pensais que vous l'aviez avec vous depuis des années et des années, le feuilletiez.
Je sens que vous allez me faire une remarque.
Non, pas du tout, pas du tout. Vous amenez. Mais c'est bon d'amener des livres un peu partout.
Oui, oui, et puis d'avoir une bouteille d'eau qui fuit.
C'est dommage que les auditeurs n'aient pas l'image de votre livre.
Oui, oui, parce que c'est vrai qu'il a vécu, mais alors... Il a une histoire particulière, ce livre, puisqu'il faut savoir que je l'ai acheté au marché de Bagnères du Bigorre. Vous savez qu'au marché de Bagnères du Bigorre, vous avez un vendeur de livres d'occasion. Et donc, un jour, en allant marcher en montagne, en revenant, il y avait le marché de Bagnères. J'ai dit, tiens, avant de partir au Vietnam, je vais aller m'acheter des livres d'occasion. Et je suis tombé sur ces deux livres dont je vous parle ici. Et je me suis dit, tiens, voilà. Donc, le livre était déjà d'occasion. Il avait déjà vécu. Il avait déjà une patine. Je me suis dit qu'il fallait que je rajoute la mienne.
Oui, oui. Vous avez toujours besoin de rajouter votre patte.
Ouais, on me le reprochait au studio.
Non,
vous voyez,
c'est bien.
Mais c'est pas faux. Pardon. Je vais vous lire, donc, dans ce livre, Les Confidences, une confession en page 29. Et vous allez voir, c'est vraiment savoureux. Ça s'intitule Un billet de 20 euros. Le confident suivant est une confidente. Je mets un moment à le comprendre tant son timbre de voix est grave. La diction est limpide, le discours construit. Elle aussi doit avoir apporté des notes car elle tourne de temps à autre une page, à moins qu'elle ne tripote un journal pour occuper ses mains. L'histoire qu'elle est venue raconter commence un vendredi en fin de journée après le travail. Comme tous les vendredis, elle va faire ses courses au supermarché. Et comme tous les vendredis, un homme est là, assis en tailleur près de la porte vitrée. Il ne vend rien, en fait rien de matériel. Il offre sa présence régulière, son sourire singulier, et en échange, on peut, si l'on veut, lui donner de l'argent. C'est son travail à lui, son activité. Il a deux dents métalliques sur le milieu et un trou au milieu. Ses lèvres sont bombées, ses pommettes hautes et saillantes, son dos bien droit, et même plus que droit, légèrement cambré, projetant son gros ventre vers l'avant. Au pied, il porte des baskets, sans lacets. Ses cheveux noirs ont des reflets cuivrés quand il y a du soleil. Des reflets cuivrés jusqu'au jour où il se rase les cheveux. Elle va pour lui faire remarquer comme s'il ne le savait pas lui-même. « Tiens, mais vous vous êtes rasé aujourd'hui !» Elle veut lui signifier qu'elle fait attention à lui, qu'elle le regarde, qu'il n'est pas juste un tas fiché d'une main tendue, mais elle pense au dernier moment qu'il a peut-être été obligé de se raser à cause des poux. Alors elle ravale son commentaire et se contente de lui demander de ses nouvelles. L'homme lui répond dans son français approximatif qu'il ne va pas très bien. « Je n'allais pas bien, c'est difficile, et paume ouverte, il lève les yeux au ciel. » Elle croit qu'il invoque les forces divines, mais non, l'homme est pragmatique. C'est la pluie qui gâche sa journée. Les gens sont pressés, ils partent vite sans rien lui donner. Ils ont peur de recevoir la sauce. Au supermarché, elle en a pour 40 euros. Le caissier a l'air désolé qu'elle ait égaré sa carte de fidélité. Il en fait tout un plat, la file s'allonge. Elle fouille partout, décidément, non pas de carte. Avant de refermer son portable, elle constate qu'il ne reste plus de pièces, juste un billet de 20 euros. Elle le range dans la poche de son jean pour qu'il soit facilement accessible. Elle veut laisser quelque chose à l'homme qui fait la manche. Combien va-t-elle lui donner? 2 euros, comme les autres fois? 5 euros? Elle n'aura qu'à lui demander s'il a de la monnaie. Elle s'apprête à sortir du supermarché en poussant son caddie. 5 euros, ça lui semble beaucoup soudain. En coupant la poire en deux, disons 4 euros, ce qui fait tout de même 10% du montant total de ses achats. Ce petit marchandage avec elle-même la satisfait. Elle se trouve très généreuse. Quand elle passe la porte vitrée, il est là, il n'a pas bougé. Il pince son t-shirt entre son pouce et son index, le tire vers l'avant pour le décoller de son ventre. Elle lui demande d'une voix claire comme elle le ferait chez n'importe quel commerçant. « Est-ce que vous avez de la monnaie sur 20 euros ?» La tête de l'homme se redresse, son visage s'illumine. Il prend le billet et remercie la jeune femme en plaçant sa main droite sur son cœur. Elle attend debout devant lui, mais rien ne se passe. Elle attend encore. Ça dure longtemps, trop longtemps. Visiblement, l'homme n'a pas l'intention de lui rendre quoi que ce soit. Il dodeline de la tête. Il est content. Depuis ce jour, chaque semaine, elle appréhende le moment d'aller faire ses courses. L'automne arrive, les cheveux de l'homme repoussent. Même si le temps est au beau fixe, il dit en regardant le ciel, c'est difficile aujourd'hui, comme s'il prononçait une formule magique susceptible de déclencher l'apparition d'un billet de 20 euros. Quand la jeune femme lui donne des pièces, elle a l'impression d'être en faute. Il remercie pourtant la main sur le cœur, avec le même enthousiasme, la même reconnaissance, mais ses remerciements sont embarrassants. Elle va de moins en moins souvent au supermarché, deux fois par mois, une fois par mois, et puis un vendredi. L'homme n'est plus à sa place habituelle. Il a déménagé sur un carré de pelouse près des caddies. Un garçon d'une dizaine d'années l'accompagne. Il tient en l'air son téléphone qui diffuse une musique entraînante, pensant ainsi attirer la sympathie des bienfaiteurs potentiels, sans y imaginer qu'il leur envoie un message contradictoire. S'il a de quoi s'offrir un portable, c'est que son père n'est pas dans la misère. Les clients du supermarché se sentent floués. Est-ce pour cela qu'on lui a donné de l'argent semaine après semaine pour qu'il paye un forfait téléphonique à ce gamin au jour où bondi ? La jeune femme le salue et l'homme, d'un geste doux, encourage le petit à s'avancer vers elle. Il s'exécute en se tortillant un peu. Quand elle lui demande comment il s'appelle, il hausse les épaules. Elle comprend qu'il ne parle pas un mot de français. Elle ne donne jamais d'argent aux enfants qui font la manche. Mais là, comment dire ? Elle ne peut pas faire autrement. Un mouvement inattendu survient alors, un mouvement qui la touche plus que de raison. Le gamin regarde la pièce de 2 euros qu'elle a déposée dans sa main, referme les doigts, puis se jette à son cou et l'embrasse, de bons baisers bien chauds dans le froid de l'hiver. Quand elle va remettre son caddie en place, l'homme lui explique qu'il n'a plus le droit de s'installer devant le supermarché près de la porte d'entrée. La direction lui a demandé de quitter sa place. Elle l'a congédié en somme, alors il reste là sur le parking. Ce n'était pas commode, l'humidité, la boue, les pots d'échappement, les gens qui font semblant de ne pas le voir. Difficile, conclut-il, difficile. Elle n'est pas retournée au supermarché. Elle ne peut plus y aller. Elle n'en est pas fière, mais c'est ainsi. Elle a peur de croiser le regard plein de gratitude et de peine de l'homme au sourire d'argent. Peur de retrouver l'enfant. Ses baisers lui pèsent. Ses remerciements. Voilà une des confidences, vous voyez, qui est faite.
C'est superbe.
C'est superbe parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et ce sont des gens, effectivement...
C'est à la fois très banal et superbe.
Et superbe. C'est-à-dire que, en fait, toutes les confidences qu'elle a, ce sont des banalités qu'elle transforme en
pépites.
En pépites. C'est-à-dire, d'une citrouille, elle en fait un carrosse. C'est vraiment un très, 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 très beau livre que je recommande, parce que là aussi, il est très bien écrit. Il touche vraiment les personnes et je trouve qu'il est très beau. Et je vais vous lire une dernière confession avant qu'on arrive donc à l'issue de cette émission. Ça s'appelle La Poire. Vous voyez où se trouve l'écluse ? Nous étions installés juste derrière rue Aristide Briand, au bonheur des fruits, entre le tabac et la banque. Un jour, mon mari n'était pas là. Je venais de remonter le rideau de fer. Une cliente est arrivée. Ding-dong ! Je la regarde. Elle est aveugle. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un choc. Elle éclaboussait les marchandises de son regard laiteux. J'en étais gêné pour elle. Je me souviens avoir pensé « Vous allez me trouver ignoble. » Mais c'est bien ça que je me suis dit. Elle pourrait porter des lunettes noires au moins. Elle m'a demandé 1 kilo de poire sans s'inquiéter du prix. Je lui ai mis les plus chères. Des passes crassanes qui avaient un peu vécu, à la fin, j'en ai rajouté une qui était visiblement abîmée. Je lui ai lancé « Ça fait un peu plus 10 kilos, je laisse ou j'enlève ?» Elle a répondu en papillonnant « Laissez, laissez !» Puis elle a payé et reparti. Ding-dong ! Son sac en papier débordant de fruits d'un côté et sa canne de l'autre. L'après-midi, le lendemain, la semaine suivante, j'ai eu peur qu'elle revienne avec la poire pourrie. J'en ai fait des cauchemars. Elle me visait en se repérant à la voix. La poire s'écrasait contre la vitrine, une crosse traînée blanchâtre avec des grumeaux. Heureusement, elle n'est jamais revenue au magasin. Je l'ai aperçue une fois près du pressing. Je me suis dépêché de traverser la rue. Elle m'a suivi comme si elle avait pu m'identifier à l'odeur. J'ai commencé à courir. Les gens me regardaient étrangement. Tout le monde me connaît dans le quartier. Personne ne m'avait jamais vu courir. Il y a une très belle confidence aussi à
très
partir d'une poire.
Très belle tranche de vie, oui.
Voilà, très belle tranche de vie. Et vous voyez, Alice Fernet dans le Figaro littéraire disait à propos de ce livre, « Ce livre est merveilleux, littérairement réussi, humainement émouvant, intellectuellement stimulant. » Et François Brunel disait « Tout ce qui fait la condition humaine s'y déploie. » Et c'est exactement ça. C'est un livre vraiment passionnant et je vous recommande dans les lectures de l'été, comme on le fait, comme je le fais chaque année en arrivant à la fin de cette saison, ces deux romans. Timothée de Fombelle, La vie entière, donc un roman publié chez Gallimard, absolument donc magnifique, avec cette jeune femme qui attend son chef de réseau qui ne vient pas et qui s'imagine, alors même qu'on est en pleine guerre, une vie qu'elle aurait avec lui après la guerre. Et on sent bien cette comment la vie peut se concentrer dans quelque chose de un peu comme un trou noir avec une puissance et une force terrible. Marine Limier, les confidences, publié donc en folio, en poche, et donc cet auteur qui a décidé de louer un appartement donc pendant quasiment 3 semaines pour recueillir les confidences des gens, mettant des affiches, des annonces un peu partout, donc au supermarché, au magasin, devant le lycée, devant la maison des associations, devant la médiathèque, et qui a recueilli les confidences des personnes, mais avec un bandeau sur les yeux, pour qu'elles ne puissent pas voir les gens et que les gens aient confiance en elles. Et on en a fait ce superbe roman. Je vous recommande vraiment, vraiment ces deux livres. Voilà, des romans à lire cet été, bien au fond de son relax, tranquillement sous un arbre, à profiter effectivement du vent, et puis en éteignant le téléphone portable, en le mettant loin.
Ah oui, le téléphone portable,
loin des mains. Voilà.
Faut le mettre en
plus qu'en pause, on l'oublie.
On le met en mode avion.
Voilà. Faire un peu comme moi quand Philippe Subercase cherche à m'appeler, comme il me dit, le téléphone n'est jamais ouvert. Je suis un spécialiste, je pourrais donner des cours d'ailleurs à Radio Présence là-dessus.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Vous confirmez, Philippe Subercase.
Ah mais c'est une catastrophe. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous payez l'abonnement.
Ouais, exactement. Bon, voilà pour ces deux livres. Deux très beaux livres, Philippe Subercase. Ouais. Vraiment ce que j'appelle moi des romans intimistes, et donc des romans où vous pénétrez au cœur de l'humanité, très très bien écrit, et où le plaisir des mots également fait que ben, lorsqu'on est tout seul, qu'on le lit, on le lit à voix haute pour lire, mais aussi profiter de la beauté des mots, parce que la langue française est une langue, on le dira jamais assez, mais absolument formidable.
Eh bien écoutez, c'est avec cette conclusion que se termine aujourd'hui cette chronique. D'ailleurs, je vois que vous rabattez votre ordinateur.
Le battant de mon ordinateur.
Voilà.
Et tout à fait.
On va pouvoir donc se retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et petit à petit, on arrive à la fin de cette saison.
Exactement.
Voilà. Doucement.
Tout doucement. Vers les vacances.
Voilà. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
À la semaine prochaine.